C'est la Star Gallery et la Galerie des Stars, située à quelques centaines de mètres seulement de la célèbre Grand Place de Bruxelles. Les Galeries Royales Saint-Hubert sont chargées d'histoires et d'anecdotes, tant elles ont attiré les célébrités, les écrivains, les comédiens, les politiques et autres têtes couronnées. Elles furent inaugurées en 1847 par le roi des Belges, Léopold Ier, accompagné pour l'occasion par ses trois enfants. Elles célèbrent donc leurs 175 ans cette année. Ces galeries, couvertes d'une verrière, figure parmi les plus anciennes d'Europe. On y trouve des commerces, une grande librairie, des restaurants, des boutiques, des bureaux, des appartements privés et même un cinéma et deux théâtres. Parlons d'histoire se penche sur cet élégant et prestigieux complexe qui attire chaque année quelques 6 millions de visiteurs en quête d'un petit voyage hors du temps.
Parlons d'histoire. Dorian Demeus.
Pour évoquer les 175 ans des Galeries Royales Saint-Hubert, je reçois Paul Grosjean. Bonjour Paul.
Bonjour Dorian.
Alors Paul, avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons un peu qui vous êtes. Vous êtes journaliste, vous avez longtemps été le rédacteur en chef du magazine Lobby. Vous êtes aussi un amoureux de Bruxelles et de son patrimoine. Enfin, vous êtes sans aucun doute le plus grand expert des Galeries Saint-Hubert, et ce pour deux raisons. Vous avez étudié et fait d'innombrables recherches historique sur ces galeries, et puis surtout votre famille est intimement liée à ces galeries, à la société qui les gère et à leur histoire. Alors justement, ces galeries, inspirées des palais italiens de la Renaissance, ont été inaugurées, je le disais, le 20 juin 1847 par Léopold Ier, accompagné par ses trois enfants. Qui se cache derrière ce projet urbanistique tout à fait unique pour l'époque ?
Il y a un homme qui est un génie, qui s'appelle Jean-Pierre Cleuzenard, qui est d'origine hollandaise, qui est architecte et qui s'est mis en tête d'embellir Bruxelles. Il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Nous sommes en 1837 et la Belgique est un jeune pays et Bruxelles est une capitale assez moche, assez glauque, et il est temps de mettre Bruxelles à niveau des autres capitales comme Paris et Londres. Et notre jeune architecte a un projet un peu fou qui est de relier donc la Monnaie, le quartier de la Monnaie, au quartier de la Grand Place par un passage couvert. Il faut savoir qu'à l'époque, en 1837, il y a un passage couvert à Bruxelles, qui est le passage de la Monnaie, qui n'existe plus. À Paris, les passages sont apparus dès 1800, donc c'est déjà au départ un phénomène parisien. Mais donc, il n'y a pas encore eu à Bruxelles, d'une manière significative, un geste urbanistique. Et ça, c'est vraiment le grand projet de Cleuzenard, c'est d'embellir le centre de Bruxelles. Il a l'idée de cette galerie en 1837, et il faudra 10 ans pour que son idée se concrétise.
Donc l'idée prend forme assez vite. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ces galeries, situées donc à côté de la Grand Place, et en fait ça ressemble un peu à une ville dans une ville. Alors que peut-on y trouver exactement ?
Mais on retrouve toutes les fonctions urbaines, c'est une très très bonne façon de poser la question. Donc à la fois il y a du logement, il y a du commerce, il y a du bureau, il y a les espaces culturels, il y a les espaces publics, puisque en fait cette galerie Saint-Hubert, entre guillemets, était une rue avant qui s'appelait la rue Saint-Hubert. Donc c'est un peu comme une rue qui serait couverte par une verrière. Et d'ailleurs, c'était les premières galeries monumentales de l'époque, parce qu'avant, il y avait ce qu'on appelait les passages parisiens, et ça, c'était beaucoup plus petit. Et donc, le Bruxelles a fait œuvre vraiment d'innovation urbaine en créant ces galeries qui étaient les premières monumentales. Après, il y a eu Milan, évidemment, 30 ans après, mais c'est vraiment Bruxelles qui a donné le ton en matière de passages historiques.
Elles ont inspiré Milan ?
Absolument. L'architecte de Milan, qui s'appelle Mengoni, était d'ailleurs venu à Bruxelles pour rencontrer Jean-Pierre Cleuzenard et pour, je ne vais pas dire prendre la leçon, mais quand même un peu s'inspirer de ce qui se passait, parce qu'il y avait aussi tout un aspect technique, puisque c'était, il faut quand même le rappeler, ces Galeries Royales Saint-Hubert, les premiers bâtiments qui intégraient le verre et le fer, donc ça c'est très important. C'était aussi les premiers immeubles, le premier immeuble appartement de Belgique. Donc il y avait vraiment un certain nombre de nouveautés qu'il fallait intégrer, et on était en pleine révolution industrielle, et les Italiens évidemment sont venus voir comment ça se passait à Bruxelles.
Oh, cela dit, l'expropriation des habitants et commerçants de l'époque est très mal passée et il a fallu en fait assez peu de temps pour que ces galeries soient un succès. Revenons peut-être sur ces deux aspects.
Ah, c'est clair que la phase d'expropriation n'a pas été la plus facile. La légende raconte qu'un barbier du nom de Pamel se serait suicidé avec sa lame de rasoir apprenant qu'il était exproprié. Et d'ailleurs, la fameuse expression péjorative qui est architecte, qui était pendant très longtemps à Bruxelles une injure, on croyait que ça venait de Joseph Poulart qui a fait le palais de justice. Pas du tout. Ça vient des galeries royales Saint-Hubert et du pauvre Jean-Pierre Cleuzenard qui a été un peu le bouc émissaire. Mais après, heureusement, ces galeries ont été un tout grand succès et ça a tout de suite marché et c'est ça qui est le plus important à retenir, évidemment.
Parmi les artistes qui ont travaillé à la rénovation des galeries pendant toutes ces années, on citera notamment les peintres René Magritte et Pierre Alechinski ou encore l'architecte Serge Van der Kam.
Alors, ce qui est tout à fait incroyable, c'est que ces galeries sont une œuvre à la fois, j'ai parlé d'un homme Cleuzenard, mais quand même une œuvre collective également, et évolutive. C'est-à-dire que depuis 175 ans, ces galeries ont sans cesse évolué parce qu'il y a des nouveaux commerces, des nouveaux locataires, etc., qui sont apparus. Et chaque locataire pouvait faire appel à des architectes, etc. Et les plus grands architectes, après Cleuzenard, ont collaboré pour faire évoluer ces galeries. Il y a eu Balla, il y a eu Chambon, il y a eu Govaerts, par exemple, Govaerts qui a fait la taverne du passage. Il a fait aussi la maison Van Buren à Uccle. Il y a eu Brodsky, qui a fait donc ce qu'on appelait le Blue Note, qui a été un club de jazz mémorable, qui est devenu après Tropisme. Brodsky, c'est aussi un très grand architecte qui a fait l'immeuble CBR à Bruxelles. Il y a eu Michel Verlieven, il y a eu Philippe Verdusset. Donc c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est à la fois un bâtiment classé, qui est immuable, et en même temps qui évolue sans cesse, puisqu'il y a sans cesse de nouveaux locataires, il y a sans cesse des architectes qui sont mêlés, et aussi des artistes. Donc ça, c'est très important, effectivement, Pierre Alechinski, ou évidemment le fameux plafond du Théâtre Royal des Galeries, fait par René Magritte en 1951.
L'attractivité des galeries pour les Bruxellois et les touristes, en plus de l'aspect esthétique, tient aussi à ces deux théâtres, à son cinéma, à ses boutiques, sa librairie Tropisme, vous l'avez dit, et ses brasseries ou la fameuse taverne. Une attractivité qui fonctionne aussi sur les membres de la famille royale, les politiques, les écrivains, comédiens, acteurs, gastronomes. Alors passons un peu ces différents visiteurs en revue, si vous le voulez, car ils ont participé à la saga et à la célébrité des lieux. Commençons, si vous le voulez, par la littérature avec la naissance du Cercle Gaulois qui initialement a vu le jour dans les galeries. Aujourd'hui, le Cercle Gaulois est évidemment dans le parc royal. Alors, on cite Hugo, Rimbaud, Verlaine, Verne et Apollinaire.
Alors, le grand agent publicitaire ces galeries royales Saint-Hubert, ça a été Victor Hugo. C'est incroyable. En fait, c'est une coïncidence incroyable. En 1851, il y a le coup d'État de Napoléon III et un certain nombre de leaders français qui sont obligés de s'exiler. On les appelait les proscrits, dont le plus connu était Victor Hugo, qui connaissait déjà Bruxelles, évidemment. Et donc, en 1851, notre ami Victor Hugo vient s'installer à la Grand Place, mais il installe sa maîtresse, Juliette Drouet, dans la Galerie des Princes, donc dans les galeries royales Saint-Hubert. Et Hugo, qui était une star mondiale, a eu un effet d'entraînement incroyable. Après tous les plus grands écrivains du 19e siècle, et le 19e siècle, c'est quand même le siècle de l'écriture, le siècle de la littérature, sont venus tout de suite. Il y a eu Alexandre Dumas, ça je peux quand même un tout petit peu en parler, qui lui a profité du coup d'État de Napoléon III pour, comme on dit à Bruxelles, en stumbling, puisqu'il était couvert de dettes, il était en faillite, Alexandre Dumas. Il est parti comme ça, à travers les mailles du filet, à Bruxelles, se réfugier à Bruxelles, et évidemment qu'il venait au Cercle Gaulois, qui ne s'appelait pas Cercle Gaulois à l'époque, mais le Cercle Artistique et Littéraire. Il y a eu, après cette période, il y a eu la période Charles Baudelaire, ça c'est quand même aussi assez incroyable, qui détestait la Belgique, qui était venu pour se faire éditer, il cherchait un éditeur, il a essayé de frapper à la porte de l'éditeur de Victor Hugo, qui n'a même pas voulu le recevoir, et c'est pour ça qu'il a écrit « Pauvre Belgique », où il crachait tout son venin contre la Belgique. Et je termine par la fameuse anecdote entre les amants géniaux qu'étaient Verlaine et Rimbaud, c'est quand même les deux plus grands poètes de la littérature française, et donc qui s'étaient retrouvés à Bruxelles. Et Paul Verlaine, qui sentait que son amant allait le quitter, Arthur Rimbaud, il est allé dans la galerie de la Reine, chez l'armurier Montigny, et c'est là qu'il a acheté ce fameux pistolet avec lequel il a tiré sur Rimbaud, qui n'a pas tué. Et c'est pour ça donc que Paul Verlaine a fait 2 ans de prison à la prison de Mons, et a peut-être écrit ses plus beaux poèmes à la prison de Mons. Voilà.
Dans le domaine du spectacle aussi, hein, que ce soit en théâtre, opéra, danse, les grands interprètes et auteurs ont fréquenté les galeries.
Alors ça, il faudrait peut-être 3 heures pour en parler, parce qu'il y a eu le théâtre, il y a eu la danse, il y a eu la musique. Au niveau du théâtre, évidemment, tout est parti du théâtre des galeries, qui au départ était plus dédié à l'opérette et à l'opéra comique. Parce que la ville de Bruxelles voulait protéger le théâtre de la Monnaie, le théâtre du Parc. Et donc, c'était un peu le cantonnement, si je puis dire, l'opérette. Mais enfin, il y avait par exemple Jacques Offenbach qui venait régulièrement dans les galeries. Et puis en 1907, il y a un nouveau directeur qui s'appelle Franz Fonson. Et ça, il faut en parler, donc directeur du théâtre des galeries, qui était aussi un écrivain, un auteur. Et il a écrit une pièce qui s'appelle « Le mariage de Mademoiselle Beulebans » et qui a révolutionné le théâtre bruxellois. Et donc, à partir de là, on a commencé à programmer de véritables pièces de théâtre au Théâtre des Galeries. Mais c'était 9 fois sur 10 des pièces qui venaient de Paris. Donc, et c'est pour ça, via les galas Carsanti, etc., etc., que les plus grands acteurs français, les plus grands comédiens français, Edwige Feuillet, Louis Jouvet, Gérard Philippe, etc., etc., sont tous venus au Théâtre des Galeries. Mais il n'y avait pas vraiment de programmation de la part du Théâtre des Galeries. Petite parenthèse, pendant la guerre, il y a une certaine Léonie Koroman qui a commencé au Théâtre des Galeries.
Annie Cordy.
Voilà, Annie Cordy. Et après la guerre, il y a eu donc les deux nouveaux directeurs, si je puis dire, Aimé de Clercq et Lucien Fonson, fils de Franz Fonson, du Théâtre des Royales des Galeries, qui se sont dit « Mais maintenant, il faut avoir notre propre compagnie, notre propre programmation, et pas uniquement accueillir les tournées parisiennes. » Et c'est ainsi que Jean-Pierre Rey, le fameux Jean-Pierre Rey, a créé la Compagnie des Galeries. Et depuis donc la saison 52-53, cette Compagnie des Galeries anime le Théâtre Royal des Galeries. Et il y a eu la période Jean-Pierre Rey, et maintenant c'est David Michels, qui était un peu son fils spirituel, qui a pris le relais. Alors ça, c'est le théâtre. Mais je vous ai parlé du théâtre, mais je ne vais pas parler de la danse. Je ne vais pas en parler longuement, mais Maurice Béjart était un habitué, un fan des Galeries Royales Saint-Hubert, et notamment de Mon Café, où il venait tous les jours, qui est un endroit très connu par ceux qui connaissent les Galeries Royales Saint-Hubert, et la musique. La musique. Alors là, il y a eu le théâtre du Vaudeville, etc., etc. Le Vaudeville, et aussi un club de jazz, le Blue Note, dans la Galerie des Princes, là où il y a la fameuse librairie Tropisme maintenant, qui a été un club mythique. Et il y avait un grand, je terminerai là-dessus, un grand musicien, un grand guitariste belge de jazz, qui est Philippe Catherine, qui est considéré comme le plus grand guitariste de jazz belge. Et c'est lui qui était dingue. Il a appris à jouer à la guitare électrique Galerie des Princes. C'est ça qui était incroyable. Et il a même créé un morceau qui s'appelle Galerie des Princes.
Le cinéma fait lui aussi partie intégrante de l'histoire des galeries, et ce, dès ses prémices, puisqu'on se souviendra de la première représentation du cinématographe des frères Lumière. C'était le 1er mars 1896 dans la Galerie du Roi.
Le 7 Galerie du Roi, là où il y a Léonidas en ce moment, c'est là que pour la première fois en Belgique, il y a eu une projection publique du cinématographe des Frères Lumière. Je tiens à préciser qu'avant la Belgique, c'était uniquement en France, à Paris et à Lyon, qu'il y avait ces projections, entre guillemets. Donc les Belges, avant les États-Unis, ont découvert le cinéma, entre guillemets, grâce aux Frères Lumière et grâce, en fait, à un journal qui s'appelait La Chronique, qui était basé aux 7 Galeries du Roi et qui avait donc créé l'événement en faisant venir les Frères Lumière. Et après, évidemment, c'est devenu une histoire d'amour entre ces galeries et le cinéma. Je rappelle quand même que le cinéma des galeries a été créé en 1939 et que c'est à Bruxelles, actuellement, le plus ancien cinéma en exploitation. Et je ne vous parle pas, évidemment, de tous les tournages qui ont lieu dans ces galeries. Je vais en citer deux. Odette Tout le Monde, Eric Emmanuel Schmitt avec Catherine Froh, tourné notamment à la librairie Tropisme, et alors un superbe film de l'anglais Tom Hooper, celui qui avait fait Le discours d'un roi, qui s'appelle The Danish Girl, qui a été également en partie tourné dans ces galeries. Et puis il y a deux films sur les galeries elles-mêmes, deux documentaires superbes par deux femmes d'ailleurs, Françoise Levy et Patricia Nijecki.
Alors, certains visiteurs viennent aux galeries pour déjeuner ou dîner. Il y a la célèbre taverne du passage, l'Augenblick, mais pas seulement. Hein.
Non, pas seulement. Et je voudrais rappeler une enseigne qui a disparu, parce qu'elle a fait faillite en 1957, donc il y a déjà très très longtemps, qui s'appelait non pas la taverne du passage, mais la taverne royale, qui était de place to be à Bruxelles pendant des décennies, pendant plus ou moins 75 ans, pardon. Et ça, c'était situé à côté du théâtre des galeries, juste à l'entrée de la galerie du roi, en fait, quand vous venez par ce qu'on appelle la rue de l'Écuyer. Et pourquoi est-ce que j'en parle ? Parce que c'est là que Joseph Niels a inventé le filet américain en 1924. Après, Joseph Niels a créé son propre établissement au boulevard Émile Jacquemin qui s'appelait à l'époque le Canterbury. Et là, il y a eu toute la dynastie des Niels avec Vieux-Saint-Martin, etc., le Savoy, etc., etc. Mais tout est parti de la Taverne Royale. Il n'était pas le patron, il était le directeur et c'est lui qui a créé effectivement le filet américain. Et puis, il y a eu la Taverne du Passage, mythique évidemment. Ça, c'est à partir de 1928. C'est Jean Craps qui a été le fondateur de la Taverne du Passage, Galerie de la Reine. Et il y a eu une époque incroyable, celle de Léon de Molle, qui était donc le patron légendaire de cette Taverne du Passage, qui était aussi un musicien jazz, qui jouait au Blue Note juste à côté. Et lui, il a gagné plusieurs fois le prix de la meilleure cave à vin de Belgique. Il était un type incroyable. Et là, c'était vraiment la brasserie bruxelloise dans toute sa splendeur. Mais il y a eu d'autres établissements, évidemment. Il y a eu l'Augenblick, le Marmiton. Et puis moi, j'ai un faible pour le Mot Café. Le Mot Café, qui est un café bistrot, on va pas dire c'est la grande gastronomie, mais ça c'est le cœur de Bruxelles, c'est le cœur des Galeries Royales Saint-Hubert, c'est là où vraiment tous les amoureux de Bruxelles se retrouvent.
Restons dans la gastronomie pour évoquer le chocolat, et plus précisément la naissance de la praline, qui a donné toutes ses lettres de noblesse au chocolat belge dans le monde entier.
Ah ça c'est Jean Neuhaus. Alors ça c'est incroyable, ça c'est un des plus anciens locataires de la galerie, 1857, la famille Neuhaus, Jean Neuhaus s'installe à Bruxelles. C'est une famille d'origine suisse, qui au départ d'ailleurs ne s'appelait pas Neuhaus mais Casanova. Et pour plaire aux Suisses alémaniques, c'est devenu Neuhaus, nouvelle maison, Casanova. Et ils ont préféré finalement s'installer en Belgique. Et c'était un apothicaire à la base, un apothicaire. Et puis, petit à petit, il s'est lancé dans la confiserie. Et puis, son fils Frédéric a pris le relais. Et puis, son petit-fils, Jean Neuhaus Junior, en 1912... invente la praline. Donc c'est quand même un moment fondateur de l'identité bruxelloise, l'invention de la praline. Et comme ils étaient assez inventifs dans cette famille, sa femme a inventé deux années plus tard le ballotin de praline, indispensable accessoire pour compléter évidemment les pralines. Et voilà, le tour était joué. Et maintenant, Neuhaus exporte son savoir-faire à travers le monde avec d'autres chocolatiers belges, évidemment.
Pour celles et ceux qui verraient les galeries Saint-Hubert comme un vestige du passé, c'est un peu oublié que les entreprises modernes, technologiques même, y ont vu le jour.
Oui, alors j'ai envie de raconter l'histoire de Skynet. Alors Skynet, c'est quand même incroyable, c'est trois personnes en 1995. Grégoire de Streel, c'est José Zustrassen et Jean-Charles Zustrassen, les trois frères Zustrassen, qui créent une société qui s'appelle Skynet et ils ont très peu de moyens et ils sont hébergés chez la maman de Grégoire, qui s'appelle Brigitte de Méus. Et qui était la fondatrice de la librairie Tropisme, une femme extraordinaire. Elle en avait un peu marre de voir ses trois fistons, entre guillemets, dans son garage à Uccle. Elle a dit, bon, il paraît qu'il y a une chambre de bonne à louer, Galerie du Roi, numéro 27. Et c'est ainsi que nos trois copains sont arrivés, Galerie du Roi, numéro 27, ont créé Skynet à ce moment-là. Et puis Skynet a été racheté par Belgacom. C'était d'ailleurs Alain Deneuve qui s'occupait du rachat à ce moment-là. Et donc, historiquement, on peut dire que Skynet est né au 7 Galeries du Roi. Comme le cinématographe est né en Belgique aux 7 Galeries du Roi. Comme maintenant, je donne un autre exemple, une entreprise de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, AxonGé, qui est une start-up qui s'est basée Galeries du Roi. Pourquoi est-ce que ces entreprises viennent dans la galerie, qui est plutôt un lieu historique? Parce qu'elles ont besoin d'un cadre identitaire. Elles ont besoin d'être inspirées. Et elles savent que dans ces galeries, il y a plein de choses qui ont été créées, inventées. Et ça, voilà, les gens sont en recherche de ce cadre identitaire.
Les galeries tentent de poursuivre cette saga en organisant des événements mondains et populaires. Alors, on pense notamment au départ du Tour de France en 2019, qui s'est donc donné directement depuis la galerie.
C'est-à-dire que c'est une idée d'Alain Courtois, rendons à César. Il y avait le fameux départ du Tour 2019, la caravane du Tour, et il y a toujours un certain nombre de manifestations avant la première étape officielle, et il y a la présentation des équipes, et il fallait notamment que les équipes descendent de la place des Palais vers la Grand Place. Et Alain Courteuil a eu la bonne idée de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas passer tous ces couleurs individuellement, ces coureurs individuellement, par la galerie? Et donc, c'est ça qui a donné lieu à un spectacle inouï. C'était pas la course, évidemment. C'était la promotion de la course. Mais le peloton du Tour de France, les différentes équipes sont passées à travers la galerie du Roi, à travers la galerie de la Reine. Et ça a donné lieu, évidemment, à des photographies incroyables. Mais il n'y a pas eu que ça, évidemment, en termes événementiels. Il y a, de toute façon, chaque année, les fameuses décorations de Noël, qu'il ne faut pas oublier. Et par exemple, Charles Quesin, le grand designer belge, c'est lui qui a créé les origamis, entre guillemets. Donc, il a fait plusieurs fois les décorations de Noël dans les galeries royales Saint-Hubert avec ses origamis, qui ont eu beaucoup de succès. Et alors, il avait inventé les dîners surréalistes. Ça, c'était des trucs incroyables. En fait, c'est du spectacle, c'est de l'opéra. Et il y a eu ce qu'on appelle les 80 ans du Bel. Le Bel, c'est le Brussels Exclusive Labels. Donc, c'est la chambre du haut commerce. Et les 80 maisons les plus prestigieuses de Bruxelles ont fait un banquet dans la galerie de la Reine, 300 personnes, avec ce dîner surréaliste de Charles Quesin, qui était en fait une œuvre éphémère, mais géniale, parce qu'évidemment tout ça a été filmé, avec les plus grands chefs, Matagne de Valkenner, etc., qui sont venus, Pierre Marcolini qui s'occupait du dessert. Il y avait entre chaque plat donnait lieu à un habillement spécial de la part des serveurs. On faisait la cuisine dans le théâtre du Vaudeville, et les gens se changeaient, les serveurs se changeaient au cinéma des galeries. Enfin, c'était un moment incroyable. Ça, c'était peut-être le moment le plus fort en termes événementiels en dehors du Tour de France.
Prenons un peu de temps pour parler d'anecdotes. Est-ce que vous avez 2-3 anecdotes à nous partager sur ce que vous avez notamment vous aussi découvert dans toutes vos recherches? Parce que vous prévoyez d'écrire un livre. Vous avez aussi toute une série en 10 épisodes qui paraissent maintenant dans la Libre Belgique, dans le supplément week-end, hein, depuis quelques semaines. Qu'est-ce que vous avez découvert comme anecdote que vous avez envie de partager avec nous?
France Brel, la fille de Jacques Brel, m'a raconté que son papa, donc ceci étant tout à fait historique, a rencontré Barbara, quand même, on parle du sommet de la chanson française, si on parle de Jacques Brel, Barbara, Galerie de la Reine. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que la Fondation Brel organise des parcours Brel dans Bruxelles et il passe par la Galerie de la Reine pour raconter cette anecdote, entre guillemets, sachant qu'en fait, dans les années 50, Barbara habitait à Bruxelles parce qu'elle avait épousé un Belge. Et Jacques Brel, qui n'était pas encore monté à Paris, forcément habitait encore à Bruxelles. Donc ça, c'est une anecdote. Une autre anecdote que je pourrais citer, bon, ça c'est un peu pour les fêtards, c'est-à-dire que le Vaudeville n'a pas toujours été un théâtre, a été une boîte de nuit également. Il y a eu une époque assez dissipée, on va le dire comme ça, pendant une vingtaine d'années, à peu près entre 73 et 93, où c'était le rendez-vous de tous les fêtards de Bruxelles. Et même, c'est quand même une star mondiale, une star américaine, Marvin Gaye, venait au théâtre du Vaudeville. Je rappelle que Marvin Gaye a passé 2 ans à Ostende. C'est là où il a rencontré Arnaud, d'ailleurs. Et évidemment, ils allaient de temps en temps à Bruxelles faire la fête. Et Marvin Gaye, je vais publier une photo de Marvin Gaye au théâtre du Vaudeville. Donc ça, c'est quand même amusant de se dire que Marvin Gaye venait au théâtre du Vaudeville simplement pour faire la fête. Il ne venait même pas pour chanter. Et puis, il y a peut-être le lien entre ces galeries royales et la famille royale, évidemment, dont on peut parler. Vous avez évidemment expliqué que c'est Léopold Ier qui a fait l'inauguration avec ses 3 enfants, donc avec le duc de Brabant, futur Léopold II, le roi bâtisseur, avec le comte de Flandre, Philippe, qui est en fait l'arrière-arrière-grand-père de notre roi actuel, et aussi Charlotte, qui est devenue quand même l'impératrice du Mexique, je me permets de le rappeler. Après, il y a eu, évidemment...
Pour lequel on a consacré un podcast Parlons d'Histoire aussi, d'ailleurs.
Ah ben voilà, exactement. Et par exemple, la reine Astrid, bon là, on est dans les années 30, venait souvent dans la galerie de la reine, à la Ganterie italienne, qui était un petit magasin, un vrai bijou d'artisanat bruxellois ou italien, et qui existe toujours. Et elle venait s'approvisionner dans cette Ganterie italienne. Et puis, il y a aussi le fait que les galeries sont une concentration de fournisseurs de la cour assez incroyable. Et il y a aussi plein d'entreprises centenaires qui sont installées dans ces galeries, même si elles ne sont pas nées nécessairement dans ces galeries. Delvaux, d'Andois notamment. Il y a les savonneries bruxelloises. Ça, c'est 2 jeunes qui ont repris cette industrie qui était quand même ancestrale, entre guillemets, et dont ils ont une vitrine dans la galerie du roi. Donc il y a une concentration de fournisseurs de la cour qui est tout à fait incroyable. Une dernière petite anecdote, Jacques Brédal, qui est quand même une légende de la télévision belge, grand présentateur du JT, une fois qu'il était à la retraite, il a voulu reprendre un peu le collier, pas du tout pour faire du média. Il a créé ce qu'on appelait les dîners dans le noir. Et ça, c'était une très très belle idée avec la Ligue Braille. Donc l'idée, c'était avec des aveugles d'accueillir des gens dans un restaurant où tout était dans le noir. Et donc ça demandait évidemment toutes des mesures de sécurité, entre guillemets, etc. Mais ça a été une expérience assez incroyable, une expérience sensorielle. Parce que je peux vous assurer que manger dans le noir, donc vous ne savez pas très bien ce que vous allez manger, parce qu'évidemment, ils ne disaient pas à l'avance quel était le menu, etc., etc. Mais cette expérience sensorielle qui a duré plus ou moins 3 ans, en dessous du Théâtre du Vaudeville, dans la Galerie de la Reine, a été un moment extraordinaire, un moment de rencontre et de partage. Et en fait, tout le paradoxe de ces dîners dans le noir, c'est que les personnes handicapées, c'était vous et moi, tous ceux qui allaient manger dans le noir, et les personnes qui étaient opérationnelles, c'était les aveugles.
L'occasion de se mettre un peu à leur place, évidemment. Merci Paul Grosjean donc pour votre éclairage sur l'histoire des Galeries Saint-Hubert qui célèbrent cette année leurs 175 ans. Ce podcast a été réalisé par Alexandre Dumont. N'hésitez pas à partager, noter, commenter l'ensemble de nos podcasts Parlons d'Histoire. Quant à moi, je me réjouis de vous retrouver pour un prochain épisode très prochainement.